Clara Le Coq-Réal, bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. À un mois de la présidentielle américaine, les votes anticipés se multiplient. Ils sont 60 fois plus nombreux qu'en 2016. Preuve qu'un pays est divisé avec des candidats antinomiques aux États-Unis. La participation au scrutin s'annonce historique, vous le comprendrez.
Et puis dans ce journal, vous entendrez ensuite Sébastien Chado-Pétronin. Il est à Bamako ce matin au Mali dans l'espoir d'une éventuelle libération de sa mère, Sophie Pétronin. Elle est la dernière otage française dans le monde.
À suivre aussi les arguments d'un historien qui s'oppose au projet de loi sur la restitution des biens culturels au Bénin et au Sénégal. Le texte, dit-il, est trop restrictif.
Et puis pour la première fois en France, une action de groupe a été lancée pour dénoncer des différences de rémunération hommes-femmes. Ça se passe à la Caisse d'épargne. Nous vous expliquerons pourquoi.
Pour l'emporter en 2022, le macronisme est-il condamné à changer? Question posée ce matin par Frédéric Seyss, son billet politique dans un quart d'heure. Le vote par anticipation a, semble-t-il, séduit les Américains cette année. La présidentielle y sera organisée dans 27 jours très exactement, début novembre. A priori, l'épidémie de Covid-19 ne sera pas effacée et donc les records de participation sont en train d'être battus en avance. 4,5 millions d'Américains ont déjà voté, Grégory Phillips.
En 2016, à 4 semaines de l'élection, seulement 75 000 personnes avaient déjà voté, selon le décompte fourni par Michael McDonald, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Floride. Ce nombre a été multiplié par 60. 4,5 millions d'Américains ont déjà renvoyé par la poste leur bulletin de vote ou se sont déjà déplacés dans un bureau. La faute au coronavirus, mais pas seulement, dit l'enseignant.
On attendait déjà une forte participation avant même l'épidémie de Covid. Mais maintenant, il faut ajouter d'autres facteurs. Les manifestations de cet été pour la justice sociale, le remplacement d'une magistrate à la Cour suprême. Et n'oubliez pas que les gens ont une opinion très tranchée sur Donald Trump. Il semble bien qu'on se dirige vers des élections historiques.
L'étude démontre que ce phénomène du vote anticipé prend surtout chez les démocrates, moins chez les républicains. Au Dakota du Sud, la participation atteint déjà les 25%. Ce chercheur de l'université de Gainesville pronostique donc une participation record à cette élection, peut-être autour de 65%, sans s'avancer sur le nom de celui, Biden ou Trump, à qui une telle mobilisation pourrait profiter.
Et pour le moment, en tout cas dans les sondages, le démocrate compte 16 points d'avance sur le président sortant. Ce n'est pas Joe Biden et Donald Trump qui vont s'affronter ce soir à la télévision, mais leur candidat à la vice-présidence. Kamala Harris, colistière de Joe Biden, face à Mike Pence, le discret vice-président de Trump. Ce débat se tiendra dans l'Utah, à Salt Lake City, capitale de l'État et capitale des Mormons, où se trouve pour France Culture Benjamin Ely.
Devant le centre de presse, sur le campus de l'université de l'Utah, un agent de sécurité filtre les passages en écoutant Bob Marley.
My name is Phil.
Il s'appelle Phil, il a 46 ans.
Hopefully it'll be something.
Pour ce débat, Phil veut quelque chose de digne, de présidentiel.
Somewhat presidential.
Et il soutient Kamala Harris.
Yes, she's a good
oui, c'est une bonne débatteuse, une combattante, elle a du cran.
Good chops.
Kamala Harris est vraiment devenue une cible pour Mike Pence et Donald Trump.
Oh, without a doubt.
Sans aucun doute, c'est une cible pour eux parce que c'est une femme noire. Et la rhétorique qu'ils ont développée indique que ça les dérange. Dans le centre-ville de Salt Lake City, autour du grand temple de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, les Mormons déambulent, toujours pour toi.
Good luck with everything.
Ils représentent plus de 60% de la population de l'Utah, un bastion républicain où Mike Pence, l'ultra-conservateur plus discret que le président,
Pence
coche toutes les cases. Selon Orlow, 86 ans, Mormon,
he's a good man.
C'est un homme bien, un républicain, conservateur. Il croit au second amendement sur le port des armes et il est contre l'avortement. Et par rapport au premier débat, ça va mieux se passer. Mike Pence est plus calme que Donald Trump.
He is more calm.
Démocrate ou républicain, il semble que les électeurs à Salt Lake City aspirent cette fois à un débat constructif et peut-être plus détendu.
Benjamin Ely pour France Culture à Salt Lake City. Ils sont accusés par les démocrates d'électriser le débat. Les adeptes de la mouvance conspirationniste QAnon aux États-Unis, eh bien Facebook a décidé hier soir de retirer tous leurs comptes, leurs pages, leurs groupes sur la plateforme de réseau social. Idem sur Instagram. Cette fois même, les pages qui ne contiennent pas de contenu violent sont supprimées. Notons aussi que Donald Trump ne présenterait plus aucun symptôme du Covid-19 selon ses médecins. Le président sortant a d'ailleurs fait une annonce politique cette nuit. Les négociations avec les démocrates sur un plan de soutien à l'économie sont brutalement arrêtées. Donald Trump promet de faire voter ce budget, ce plan d'aide, s'il est réélu le mois prochain. Cela semble être un développement significatif pour l'éventuelle libération de Sophie Pétronin, dernière otage française dans le monde. Plus d'une centaine de djihadistes ont été libérés en ce début de semaine au Mali. En échange, l'opposant Soumaïla Cissé et la Française Sophie Pétronin, détenue par des islamistes armés, pourraient être libérés. Hier, en tout cas, le fils de Sophie Pétronin, Sébastien Chado Pétronin, a pris un vol à destination de Bamako, la capitale malienne. Sur place, notre correspondant Kaourou Magassa l'a rencontré hier soir.
On est passé un peu par tous les stades. On a beaucoup galéré, on a beaucoup souffert. Il y a eu aussi des moments de joie, il y a eu des fabuleuses rencontres, mais c'était quand même un sacré parcours du combattant. Et puis je pense que pour ma famille, ça serait bien que ça s'arrête. Alors on croise les doigts parce qu'on ne sait toujours pas, si ça va s'arrêter. Il faut qu'on reste prudent. D'être ici, c'est ma place. S'il y a une petite chance qu'elle puisse sortir de cet enfer, il faut que je m'avance vers elle au maximum. Si je pouvais m'avancer encore plus, je le ferais. J'aime ma mère, puis je trouve qu'elle a fait des très belles choses. Donc ça peut pas mal se terminer. Il faut que tout ça, ça aille vers la lumière. Je sais pas, mon cœur me dit ça.
C'était Sébastien Chado Pétronin avec Kaourou Magassa à Bamako. Je rappelle que les autorités françaises ne se sont pas exprimées publiquement sur cette éventuelle libération. Ce matin, Emmanuel Macron sera occupé en Conseil des ministres où seront présentés le projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2021. Les hôpitaux regrettent déjà le manque de moyens toujours pour les établissements. Présenté aussi en Conseil ce matin, a priori, le congé paternité que le gouvernement souhaite allonger de 14 à 28 jours. Et puis sachez que dans la foulée, le président français doit rejoindre cet après-midi les vallées de la Roya et de la Vésubie, 4 jours après les inondations qui ont dévasté une partie des Alpes-Maritimes. Le dernier bilan ce matin est d'au moins 4 morts, 8 disparus, avec des dégâts colossaux. 45 kilomètres de routes seraient à refaire, 10 de ponts sont détruits, selon le président du conseil départemental. L'État sera au rendez-vous, a promis hier à l'Assemblée le Premier ministre Jean Castex. L'Assemblée nationale, où les députés ont validé hier soir la restitution de biens culturels au Sénégal et au Bénin, des trésors du 19e siècle à chaque fois. Ce geste veut marquer un renouveau dans les relations franco-africaines, comme nous l'expliquait hier midi dans le journal de France Culture le rapporteur de ce texte, à réécouter dès maintenant sur notre site. Mais certains jugent au contraire ce projet trop limité. Julien Volpierre, par exemple, il est historien de l'art, spécialiste de l'Afrique, et il conteste cette loi.
Moi, ce que je vois surtout avec un projet de loi qu'on présente comme un projet de loi d'exception, c'est d'abord de réfléchir à ce terme d'exception. Pour faire un projet de loi d'exception, il faut montrer en quoi le cas concerné est exceptionnel. Est-ce que c'est une exception par rapport au fait colonial? Mais dans ces cas-là, la colonisation ne concerne pas que des questions africaines. J'allais dire, la France a eu des colonies en d'autres parties du monde, notamment je pense à l'Asie, je pense à l'Indochine, qui concerne donc des pays actuels comme sont le Laos, le Cambodge ou le Vietnam. Est-ce que l'on parle de la question d'une exception qui est celle d'un butin de guerre? Là encore, qu'on me l'explique. Le butin de guerre n'est pas une spécificité du fait colonial. C'est quelque chose qui se pratiquait, qui était légal, j'insiste là-dessus d'ailleurs, avant les conventions de l'AE de 1899. C'est une pratique régulière qu'on ne réserve pas simplement, comme on l'entend souvent de dire, c'est une spécificité qu'on a réservée à l'Afrique. Non, ça se fait même entre États européens. Pour rappel, les troupes françaises, qu'elles soient révolutionnaires ou napoléoniennes, ayant agi en territoire italien ou belge actuel, ont ramené des œuvres. Donc ce n'est pas une exception non plus dans ce sens-là.
Des propos recueillis par Stanislas Vazak, un entretien à retrouver sur franceculture.fr. Malgré ces critiques, les députés, eux, ont donc validé ce projet de loi unanimement hier. En revanche, à l'Assemblée, hier encore, le vote a été plus disputé concernant la réintroduction des néonicotinoïdes pour les productions de betteraves. 313 voix pour, 158 contre, dont des députés de la majorité chez La République En Marche. 32 élus LREM ont voté contre, 36 se sont abstenus, c'est un record inattendu. François Baroin ne sera pas candidat à la présidentielle de 2022. Le maire Les Républicains de Troyes, président de l'Association des maires de France, le confirme. Il l'explique d'ailleurs depuis une semaine aux élus de droite qu'il rencontre. François Baroin dit vouloir laisser la place à une nouvelle génération à droite, tout en précisant qu'il ne pourra pas pour autant, qu'il ne prendra pas sa retraite politique.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. La Caisse d'épargne d'Île-de-France est assignée en justice cet après-midi par la CGT pour discrimination envers les femmes.
Oui, c'est une action de groupe pour dénoncer en fait les différences de rémunération au sein de cette banque coopérative. D'après le bilan social 2018 de la société, les employés masculins gagnent en moyenne 18% de plus que leurs collègues féminines. À compétences et à postes identiques, l'écart de rémunération peut représenter plusieurs centaines d'euros sur un salaire mensuel. Cécilia Arbonna nous explique exemple à l'appui.
Ils ont été embauchés à la Caisse d'épargne en même temps, en 1993. Bernard et sa collègue Aline ont débuté tous les deux au standard.
On s'est aperçu il y a peu en fait qu'on avait une différence de salaire à hauteur de 300 euros base temps plein. C'est assez choquant, dans la mesure où on a réussi à identifier les périodes où la différence se fait, soit au congé maternité, soit au congé parental que Aline a pris à l'époque.
Devenu délégué syndical CGT, Bernard Dantec s'est aperçu qu'il y avait d'autres femmes discriminées dans son entreprise à tous les étages.
On a des conseillers commerciaux, nous avons des conseillers financiers, nous avons également une responsable adjointe d'agence et une directrice d'agence.
8 salariés femmes sont à l'origine de l'action de groupe lancée en juin 2019 contre la Caisse d'épargne. Catherine Vinet-Larry est à la retraite depuis 2016, mais elle se bat pour celles qui sont encore en activité.
Le fait d'être une femme, effectivement, je pense que ça m'a bloquée, puisque à un moment donné, je ne sais plus en quelle année, il y avait eu un appel d'offres pour devenir responsable au niveau des agences. Je lui demandais à ce qu'on ait la capacité en droit minimum, ce que j'avais. Ils ont choisi un homme plutôt que moi et l'homme n'avait pas du tout cette formation.
Un rassemblement en présence d'associations féministes est prévu cet après-midi devant le siège de la Caisse d'épargne d'Île-de-France dans le 13e arrondissement de la capitale.
C'était Cécilia Arbonna. Même défense ou presque au procès des attentats de janvier 2015 où s'expriment cette semaine les accusés. Même défense pour ces accusés. Après Willy Prévost, c'est Christophe Rommel, le seul à comparaître libre, qui a expliqué hier qu'il avait bel et bien fourni du matériel au terroriste Hamedi Coulibaly, mais qu'il n'était pas au courant de ses projets d'attentat. Pour en savoir plus, retrouvez toujours les chroniques judiciaires de Florence Turm que met en ligne Éric Chavroux sur franceculture.fr. En ce moment aussi, une autre attaque est passée au crible par la cour d'assises spéciale de Paris, celle de Sid Ahmed Glam en avril 2015. Il avait tenté un attentat contre une église à Villejuif en région parisienne. Il avait tué une jeune femme, Aurélie Châtelain. Le terroriste est jugé aux côtés de 10 autres personnes. La cour d'assises s'est intéressée hier à la personnalité de Rabah Boukaouama, un accusé de complicité aux côtés de Sid Ahmed Glam. Il est en tout cas considéré par le parquet comme la clé de voûte du réseau logistique activé depuis la Syrie, Anne Fauquemberg.
Son empreinte génétique a été retrouvée dans le sac à roulettes situé dans la voiture de Sid Ahmed Glam, sac qui contenait des armes de guerre et des munitions. Mais le Kabyle, comme est surnommé cet homme à la peau claire, côtoie depuis 2005 les figures de l'islamisme radical. Dans le garage dont il assure la gérance à Aubervilliers travaille Redouane Khalid, ex-détenu français de Guantanamo, condamné en France en 2011, tandis que Chérif Kouachi, l'un des responsables de l'attentat contre Charlie Hebdo, vient réparer sa voiture. Rabah Boukaouama reconnaît également un lien de parenté avec Abdel Nasser Ben Youssef, vétéran du djihad, soupçonné d'avoir commandité le projet d'attentat de Villejuif. Les deux hommes se sont croisés à la Mecque en 2011 de manière fortuite, affirme l'accusé, droit debout. Vous saviez qu'il était parti en 2013 en Syrie, demande la présidente. Non, répond platement le père de famille qui condamne le djihad, cette notion terminée depuis plus de 10 siècles. Dans le microcosme djihadiste, il se décrit comme un contradicteur, mais dans les faits, Boukaouama cherche beaucoup ses mots. Un homme qui serait tombé dans la religion après avoir été séquestré quelques heures à l'âge de 15 ans, ce dont il n'a jamais parlé au juge d'instruction, qui a obtenu un master 2 de droit lors de sa détention provisoire, et dont l'enquête de personnalité révèle une intellectualisation très marquée, capable de balayer le cadre de l'entretien.
Anne Fauquemberg pour France Culture. Quelques derniers mots pour vous signaler la mort d'Eddie Van Halen. Guitariste virtuose dont on retiendra entre autres Jump, solo de guitare mondialement connu, et puis le mythique Beat It de Michael Jackson en 83. C'était lui, Guillaume, écoutez. « solo de guitare d'Eddie Van Halen, qui était né aux Pays-Bas, mais il a vécu à Pasadena, aux États-Unis. Eddie Van Halen avait 65 ans. Peu de changements ce mercredi, si ce n'est sur le sud-est, où le soleil va briller franchement cet après-midi. Ailleurs, le temps oscillera entre pluie fine et éclaircie. Ce matin, comptez 10 degrés à Dijon, 12 à Paris, tout comme à Rennes et Lyon, 14 degrés à Bordeaux, 19 dans la matinée à Nice,